Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est tellement bon de se retrouver ensemble en église. Je ne sais pas vous, mais juste de se retrouver autour d'un bon méchoui, de discussion comme ça entre nous, ça fait du bien. Et puis juste aussi de voir la bonne ambiance avec tous les enfants, de les voir chercher tous ces œufs. En tout cas, ça m'a donné beaucoup de joie juste de vivre ce temps ensemble. Et donc, aujourd'hui, on va se plonger dans un texte de la Bible, juste avant. Je nous propose de changer de décor. Imaginez-vous, il fait froid. Vous êtes entouré de sapins qui sont tous blanchis et chargés de neige. La forêt est immense. Au détour d'un lampadaire, vous voyez cette scène. Une petite fille du nom de Lucy Pevensey, qui rencontre le très sympathique Tumulus. Ils commencent à discuter sur ce monde qu'elle découvre. Et la petite fille lui pose cette question. « Monsieur, qui est Aslan ?»« Aslan ?» répond Monsieur Tumulus. « Il est le roi de Narnia. Il est le seul véritable roi. Nous n'avons rien à craindre tant qu'il est avec nous. » Narnia a un roi, et c'est lui. Bon, je ne vais pas vous poser la question si vous avez reconnu le film, je pense que c'était assez évident. On est effectivement sur le premier film des Chroniques de Narnia, écrit par C.S. Lewis. C'est un film qui parle d'un roi incarné par un lion qui se nomme Aslan. Et pendant tout le film, on voit Aslan qui se dévoile de plus en plus comme roi qui règne sur cet univers qu'est Narnia. Et en réalité, par ce film, l'auteur souhaite nous montrer de façon imagée, à travers Aslan, une personne révélée dans la Bible. Et c'est une personne qui est bien réelle, Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelle serait notre réponse à la question « Jésus, qui est celui-ci ?» Alors on va lire un passage aujourd'hui qui parle aussi de royauté, qui se situe dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Et oui, la Bible ne parle pas de Pâques comme juste une chasse aux œufs, comme on a pu vivre aujourd'hui, ou un simple jour de congé en plus dans l'agenda, mais de l'arrivée d'un roi. Un roi qui arrive, qui est en route vers Jérusalem, avec ses disciples. Et là, on parle bien de Jésus. D'ailleurs, tout l'évangile de Matthieu présente Jésus comme le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui a été oint par Dieu, comme roi. Et tout comme Narnia, plus on lit l'évangile de Matthieu, plus on se rend compte que Jésus est le roi tant attendu et annoncé, le roi révélé et annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et ça y est, on y est, Jésus va se présenter en tant que roi dans une ville appelée Jérusalem. Et notre texte aujourd'hui aborde la plus grande question de l'histoire. Jésus, qui est celui-ci? Peut-être que tu es là aujourd'hui, que tu as reçu une invitation et par sympathie tu as accepté de venir. Et je voulais juste vous dire combien c'est une joie de vous voir aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, ta réponse est déjà toute faite sur la question. Tu vois Jésus comme une figure religieuse, peut-être un modèle moral exemplaire avec des enseignements à suivre, peut-être même une figure historique. En fait, on a tous plus ou moins répondu à cette question. Pour certains, la réponse est encore en attente. Pour d'autres, c'est une affaire classée. Dans le dossier religion, non merci. Pour d'autres, bah, pas plus de conviction que ça. Mais pour certains d'entre nous, cette réponse a transformé nos vies. Et je voulais juste vous dire que peu importe où nous en sommes et nos croyances, je nous invite chacun à se reposer la question aujourd'hui. Qui est Jésus pour moi ? Donc, grenoblois, parisien ou en visite, Peut-être la première fois, c'est peut-être la première fois que tu viens dans cette église, ou la deuxième fois. Peut-être que tu es un habitué, jeune, enfant ou plus âgé, tous concernés par cette question. Et donc, pour creuser cette question ensemble, je nous propose de lire le passage dans nos Bibles, Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Donc, c'est page 634 dans les Bibles blanches. Et juste avant de lire ce passage avec vous, j'aimerais juste prendre un temps dans la prière, si vous voulez bien. Seigneur, juste avant de commencer, je voudrais te donner ma reconnaissance pour toutes les personnes qui se sont investies aujourd'hui, toutes ces petites mains qui ont œuvré pour cette journée magnifique qu'on a pu passer en Église. Je voudrais vraiment te remercier pour aussi chaque personne qui est là aujourd'hui. Seigneur, je te remets ce temps qu'on va passer là dans l'étude de ta parole. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu viennes parler à nos cœurs, tu viennes parler à mon cœur, que tu viennes vraiment nous ouvrir les yeux sur ce que tu as à nous dire à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je te demande vraiment ton aide. Tu m'aides à être clair, tu m'aides à être un fidèle transmetteur de ta parole aujourd'hui. Je te prie vraiment de m'équiper dans ma faiblesse, que tu viennes te révéler à nous aujourd'hui. Et s'il y a des obstacles, peut-être qu'on vient charger, peut-être qu'on vient fatiguer une journée, même une semaine, avec plein de choses en tête. Moi, je te prie, Seigneur, qu'on puisse là te les remettre maintenant et qu'on puisse pleinement être attentif à ce que tu as à nous dire là maintenant dans ta parole. On veut vraiment être à l'écoute de ce que tu as à nous dire, de ta voix. Seigneur Jésus, toi, notre roi, et on plie le genou, Seigneur, et on te demande ton aide pour ça. Je te prie vraiment de m'aider et qu'on puisse vraiment être émerveillé de qui tu es, toi, Seigneur Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que je prie. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas de Bible, aucun problème, on peut lire ensemble Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: Qui est cet homme? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Voilà la fin de notre lecture. Alors pourquoi on est face à la plus grande question de l'histoire? Je nous propose trois points pour aller plus en profondeur sur ce passage. Je vous propose trois points. Un roi arrive, annoncé depuis longtemps. Un roi qui renverse les codes et un roi qui interroge, finalement, un peu la phrase centrale, l'idée qu'on peut peut-être retenir de ce passage, un roi qui se met en bas. Pour le premier point, un roi arrive, annoncé depuis longtemps. Avec ce verset 4 qu'on peut garder en tête: Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Je reviendrai à ce verset, on peut peut-être le garder en tête. Je vous propose qu'on plante le contexte. On est dans le dernier voyage de Jésus et le sentiment d'urgence s'accentue. Jésus va s'adresser à ses disciples quelques chapitres avant. Et il va les prendre à part, et il va leur dire: En chemin, mon moment comme le disait Aurore, mon heure est bientôt venue. Sa mort approche. Jésus, il est à la fin de son ministère terrestre, un ministère qui peut se résumer sur ce verset. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc Jésus nous révèle sa mission spécifique pour le plan donné par Dieu, être le serviteur parfait pour sauver les hommes par le don de sa propre vie. Bon, les disciples et le peuple ne comprennent pas encore ce à quoi Jésus va faire face. Pour le moment, le planning est assez simple. Cap sur Jérusalem pour célébrer Pâques ensemble. D'ailleurs, il faut bientôt se préparer, ça commence dans une semaine. Jésus avec ses disciples, ils arrivent dans une petite ville appelée Bethphagée, aux abords de Jérusalem, pour visualiser un petit peu, c'est comme si Jésus devait se rendre à Grenoble-Centre et qu'il arrivait tout juste à Échirolles ou à Ébens. Et le premier ordre du roi arrive. Il envoie deux de ses disciples au village, détacher une ânesse avec son ânon et ramenez-le-moi. On voit que tout était prévu d'avance. Jésus, dans la connaissance du plan de son Père et de son autorité en tant que fils de Dieu, il connaissait déjà les circonstances. Il agissait en tant que souverain, contrôlant parfaitement les événements, et ce, dans les moindres détails. Il savait que personne ne s'était assis sur cet ânon. Donc on a l'ordre, et voici la lettre de mission donnée par Jésus en quelques mots. Le Seigneur en a besoin. Ici, le terme « Seigneur » désigne à qui dispose toute chose, à qui appartient toute chose. C'est un peu le propriétaire qui peut demander de disposer de son bien. Comme pour une autorité suprême qui pourrait faire appel à une réquisition pour service civil, ici, Jésus, en tant que roi, il y a une réquisition pour un service divin. Et pour son arrivée à Jérusalem, Jésus va choisir un âne. Alors, il marchait depuis la Galilée, il n'avait pas besoin de s'asseoir sur un âne pour les 3 derniers kilomètres. En fait, ce que Jésus veut dévoiler, veut nous montrer ici, c'est plutôt qui il est. Le roi, le fils de Dieu et le Messie. Alors, on peut se poser la question, mais qui est ce roi-là? Et là, on commence à toucher du doigt pourquoi on est face à la plus grande question de l'histoire. Et ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. On va essayer de résumer avec nos mots. On pourrait dire que ce qui est en train de se dérouler en ce moment, sous les yeux des disciples, sous les yeux du peuple et sous nos yeux aujourd'hui, en fait dépasse la simple petite anecdote. En fait, ce que Jésus fait là, ça avait été annoncé 500 ans auparavant par des prophètes. Des prophètes, ce sont des hommes de Dieu qui viennent apporter un message de sa part. Il n'y a rien qui arrive par accident ou par hasard. Et il y a notamment un prophète du nom de Zacharie qui va annoncer « Fille de Jérusalem, voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alors, pour essayer de visualiser un peu la grandeur de ce qui se passe là maintenant, c'est comme si Christophe Colomb avait prédit en 1492 la découverte de l'Amérique, et en même temps le fait qu'on se retrouverait ici, à l'église Grenoble-Est, le dimanche 24 mars, pour une fête d'église, où on serait en train de chercher des œufs, ensemble. Là, on commence un peu à avoir un peu le vertige. Mais c'est encore plus vertigineux que ça, quand on pense que c'est pas un seul prophète qui en parle, mais plusieurs d'entre eux. On peut penser à Ésaïe, où 700 ans avant l'arrivée de Jésus, avait aussi annoncé son arrivée. J'irai même encore plus loin, c'est même tout l'Ancien Testament, depuis la Genèse, qui pointe vers l'arrivée et le besoin d'un plus grand roi. En fait, face à la rébellion de l'homme, Dieu avait déjà un plan de sauvetage pour toute l'humanité. Donc on est loin du coup de bol, d'une simple prophétie ou d'un signe un peu inventé, mais on est bien face à un miracle qui dépasse notre compréhension. On voit l'accomplissement de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité. En fait, ce qu'on est en train de voir là, en ce moment, change le cours de l'histoire. Donc ces prophéties sont un appel à se réjouir, mais surtout à reconnaître le roi qui vient, Jésus. Donc c'est un bon rappel pour moi et pour nous de la fiabilité de ce qu'on croit en tant que chrétien. La fiabilité de la parole de Dieu, qui s'accomplit toujours en son temps. Donc ça peut vraiment changer notre regard sur la Bible, qui n'est pas juste un livre rempli d'histoires, mais comme la parole de Dieu puissante et agissante pour nous révéler qui nous sommes et qui est vraiment Jésus-Christ. Voilà pourquoi on est face à la plus grande question de l'histoire. Qui est ce roi annoncé et qui arrive ? Qui est ce roi annoncé et qui arrive ? Et on va voir que ce roi-là va bousculer tous nos standards et qu'il est même bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou même penser. C'est un roi qui renverse les codes. En 2012, il y a le président de l'Uruguay, José Mujica, qui va se rendre en visite officielle en Espagne. Alors, il arrive à Madrid, il faut imaginer la scène, donc un déplacement présidentiel. Et plutôt que de se déplacer dans une limousine, par un jet privé, ou par une voiture officielle, le président Mujica a choisi de se rendre à la résidence de l'ambassadeur uruguayen à pied. Il va être accompagné de son épouse, et il va marcher dans les rues de la capitale espagnole, il va s'arrêter, il va saluer les passants. Imaginez le président qui commence à prendre un café avec vous et qui commence à discuter. Je pense que c'est une démarche un peu marquante. Comment on réagit, nous, aujourd'hui, à la notion de roi ? Comment on réagit à la notion de roi ? Par définition, un roi est celui qui a le souci de son peuple, le dirigeant principal qui porte la responsabilité du bien-être de ceux qu'il dirige. C'est un roi qui prend soin, qui connaît les préoccupations de son peuple et qui le protège. Et peut-être que quand j'évoque le terme de roi avec vous aujourd'hui, ou le terme d'autorité, ça peut peut-être nous faire évoquer des mots comme hiérarchie, comme domination, comme force, comme pouvoir, peut-être des mots qui nous mettent un peu mal à l'aise. Peut-être même qu'on a des expériences personnelles ou des souvenirs qui commencent même à nous venir en tête même maintenant. Peut-être des personnes qui ont abusé de leur autorité, qui ont cherché leur propre intérêt, leur propre bien-être, leur richesse, leur propre gloire. On peut avoir cet exemple de Louis XIV, roi de France bien connu, qui avait affirmé à l'époque « L'État, c'est moi !» On voit vraiment une autorité qui est poussée à l'extrême. Sauf que l'exemple de Jésus, ici, il est tout autre. Je dirais même qu'il est au complet opposé. Et tout comme ça pouvait surprendre les Espagnols de voir un président à pied et qui commence à les saluer, Jésus arrive non pas sur ses grands chevaux, mais sur un ânon. Le petit d'une ânesse. Voici que ton roi vient à toi. Il arrive plein de douceur. On a l'exemple d'un roi qui se met en bas. Un roi qui arrive plein de douceur, plein d'humilité. Il n'arrive pas sur un char flamboyant, avec une croisade de soldats, avec des chevaux surentraînés ou des trompettes annonçant sa venue. Là, je parle d'un roi qui est né dans une étable, qui a mené la vie modeste d'un charpentier, qui a choisi 12 disciples pour enseigner qui il était, qui va mener un ministère itinérant où il n'aura même pas d'endroit pour reposer sa tête. Lui qui va aller guérir les pauvres, qui va aller voir les malades, qui va être sensible aux petits, aux oubliés de la vie, à ceux qui ont des vies cabossées, des vies chaotiques, des lépreux. C'est même frappant parce que juste avant d'arriver à Jérusalem, il va guérir deux aveugles. Lui qui était parfaitement Dieu, il a pris la place d'un homme qui va servir toute sa vie. Là où le cœur humain cherche à s'élever, à essayer de rouler des épaules, à chercher à se faire voir, peut-être à se voir plus beau que ce qu'on est, Christ nous montre un roi qui s'abaisse, un roi qui s'humilie, un roi serviteur. Quel contraste flagrant face au militarisme agressif des chefs de l'époque et même avec nos propres cœurs. Et en fait, c'est ce roi-là que le peuple est invité à reconnaître comme leur sauveur. Effectivement, le peuple l'accueille. On a pu le lire, ils vont étendre leurs vêtements sur le chemin, ils vont couper des branches de rameaux qu'ils vont mettre sur le sentier, qui est une grande marque de respect et d'adoration envers un roi. Et on voit que tout est volontaire, d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de service forcé, il n'y a pas de demande spécifique de Jésus. En fait, on voit l'adoration simple du peuple qui accueille son roi. Et cette adoration, elle est suivie d'acclamations et de cris de joie. On peut imaginer que ça pouvait être un événement assez incroyable, même retentissant dans toute la ville et dans tous les alentours où tout le monde en parle. Petits, grands, jeunes et vieux, tous étaient là pour célébrer Jésus comme roi. Et ils vont crier « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et comme l'a dit Johan, c'est une vraie déclaration de foi, parce que Hosanna, ça signifie « sauve maintenant » ou encore « celui qui accorde le salut ». Donc on a vu que Jésus se révèle être le Seigneur, celui qui dispose de tout bien, le roi, celui qui est acclamé, et le sauveur, celui qui sauve. Jésus se révèle être le Seigneur, le roi et le sauveur, et pourtant, il ne cherche pas la gloire. Jésus, c'est un roi qui est rempli de douceur et d'humilité, et qui se met en bas. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime particulièrement regarder des films avec un twist final assez surprenant, où j'attends la fin en me disant « Bon, qu'est-ce qui va se passer ?» Et à la fin, à chaque fois, je me dis « Ah, ben, je ne m'attendais pas à ça. » En fait, le texte biblique, la Bible ne cesse de nous surprendre et même de nous reprendre sur nos préjugés. Il va même renverser nos attentes. Jésus-Christ est le roi qui vient se révéler avec une douceur et une humilité incomparables, qui nous ferait plier le genou et qui nous pousserait à l'adorer par le simple fait de voir son cœur en action. Un roi qui vient pour servir et non pour être servi. Je sais peut-être qu'on l'a entendu peut-être beaucoup de fois, mais est-ce qu'on réalise qu'on a un roi serviteur ? Un roi qui connaît ses sujets et qui appelle chacun d'entre nous à le suivre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. On peut lire en Matthieu 11, verset 28. Un roi qui est omniscient, qui connaît chacun d'entre nous, et ce, dans les moindres détails. Il connaît nos peurs, nos souffrances, nos joies, notre passé, notre présent, notre futur, dans ce mail que tu dois envoyer, dans cette discussion que tu viens d'avoir aujourd'hui, dans cette frustration que tu as vécue cette semaine, dans ce travail qui t'use, Jésus sait. Jésus, c'est pas la personne à qui tu peux dire « Tu connais pas ma vie, ok ?» Jésus, il connaît tout de toi. Jésus, ce roi qui renverse nos partis pris en twist, rempli d'humilité et de douceur, et qui vient maintenant nous interroger. C'est le dernier point que j'aimerais voir avec vous, un roi qui nous interroge. Alors on aime être le personnage principal de notre propre histoire, quand tout tourne autour de nous, la nature du cœur de l'homme est ainsi faite. Et d'ailleurs, toute notre vie peut être centrée sur une seule et même personne, nous-mêmes. À l'âge de 14-15 ans, il y a un animateur de colo qui vient me voir et qui me pose une simple question. Qui est Jésus pour toi? Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai répondu, mais je me rappelle que cette phrase m'a particulièrement marqué et a eu l'effet d'une claque. Et en fait, j'entendais parler de Jésus depuis plusieurs années, mais m'étais-je vraiment arrêté pour me demander qui il était sincèrement pour moi? En fait, cette même question que la foule se pose, quand Jésus arrive à Jérusalem. Qui est celui-ci? Il est dit que toute la foule était en émoi, autrement dit troublée. Même littéralement, c'est secoué. On peut imaginer qu'il y avait un bouillonnement de réaction quand Jésus arrive en plein cœur de Jérusalem. La venue du roi ne laisse pas insensible. Et la foule va répondre, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête sur cette réponse, qui est une réponse correcte, mais était-elle suffisante? Et notre passage s'arrête là, au verset 11. Comme si le micro passait devant chacun d'entre nous et que la question nous était directement posée. Qui est Jésus pour toi? Qui est celui-ci pour toi? Et en fait, cette question, elle est tellement importante que Jésus lui-même va poser la question à ses propres disciples. Quelques chapitres avant, en Matthieu 16, versets 13 à 17, il va leur demander, au dire des gens, « Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. » Alors certains répondent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus les reprend et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va répondre cette phrase incroyable, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va acquiescer en répondant, « Tu es heureux, Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est aujourd'hui que Jésus, le roi, monte à Jérusalem. Et il montre qu'il est plus qu'un prophète. C'est aujourd'hui qu'il est mort en rançon pour nous. C'est aussi aujourd'hui que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Et c'est encore aujourd'hui qu'il nous interroge. Qui dites-vous que je suis? Suite à cette question, en tant qu'ado, je me suis rendu compte de mon propre péché. En fait, ma volonté de vivre ma vie sans Dieu. En fait, de vivre ma vie pour moi-même. Et ma révolution devant Dieu, de m'auto-proclamer roi de ma propre vie, devait cesser. Je devais déposer les armes devant lui. Je me suis rendu compte que je devais lui céder la couronne, que je portais depuis bien trop longtemps. Christ devait devenir le roi de ma propre vie. Je devais tout lui abandonner. Et en fait, je pouvais avoir confiance de tout lui abandonner, car Jésus vient non comme un dominateur, mais comme un roi qui vient servir, qui vient s'humilier, qui vient mourir pour moi et pour chacun d'entre nous. Un roi qui est doux et humble de cœur et qui vient reconquérir nos cœurs. Un roi pour qui j'ai une valeur inestimable. Un roi qui prend soin, qui connaît mes préoccupations, qui nous protège. Un roi qui me sauve de la détresse. Un bon berger qui me fait reposer dans de verts pâturages, qui me dirige vers les eaux paisibles, qui restaure mon âme. Aussi un roi qui me corrige si je fais fausse route. Un roi qui m'aide à participer à sa sainteté. Un roi qui me fait co-héritier et qui me prépare une place avec lui. En fait, je me rends compte que plus j'apprends à connaître Jésus-Christ comme mon roi, plus je m'émerveille de qui il est et de son cœur en action pour moi. Et voilà ce que c'est Pâques. C'est un roi, un seigneur, un sauveur qui se préoccupait tellement de nous qu'il a décidé de s'humilier jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir. Qui refuserait un tel roi dans sa vie. Alors pour cela, la première place lui revient. Alors, quelques applications pour nous, on pourrait en donner beaucoup, mais je m'en suis donné deux. Si tu es ici aujourd'hui, que tu as répondu à cette invitation et que tu te dis, mais en fait, que tout ça, c'est pas pour toi. En fait, même pourquoi tu devrais te poser cette question ? Même que ce texte ne s'adresse que aux gens religieux, ou même que tu te dis que tu es trop loin de tout ça pour changer ta vie, en fait, sache que tu es le bienvenu et que tu es au bon endroit. Que personne n'est trop loin pour Dieu. Et peut-être qu'un premier début peut être simplement d'en parler avec quelqu'un cet après-midi, après notre rassemblement. Peut-être même juste d'en parler à Dieu. En fait, c'est ce qui s'appelle prier. Et de demander à Dieu qu'il change ton cœur et qu'il t'aide à voir comme lui te voit et qu'il se révèle dans ta vie, qu'il change en twist tes préjugés et tes a priori qu'on a peut-être beaucoup sur la Bible ou sur l'Église même. J'aimerais te dire que le roi Jésus t'attend avec tellement d'impatience, car cette question t'est adressée particulièrement: qui est celui-ci pour toi ? Et une deuxième application, qui est la première place dans ta vie actuellement ? Parce qu'on peut croire une vérité, on peut même l'avoir entendue beaucoup de fois, mais en oublier de la vivre pratiquement. Et en fait, on veut aussi prendre ce temps en Église pour s'examiner nous-mêmes. Qui est-ce que je suis ? Je parle bien du verbe suivre. Qui est-ce que je suis ? Qui est réellement le roi de ma vie ? Parce qu'il nous est très facile, et moi le premier, de reprendre la couronne de roi, de me la remettre sur la tête, alors qu'on l'avait donnée à Christ. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre propre vie, à servir comme Christ l'a fait pour nous ? Et peut-être une question baromètre qui peut nous aider. Est-ce que j'aime vraiment Jésus ? Et est-ce que je désire à grandir en amour pour lui jour après jour ? Prendre un temps presque de joie chaque matin à méditer sa parole, à observer les trésors que l'on trouve dans la Bible, et chaque jour à me laisser enseigner par ce qu'il a à me dire. Et peut-être même prendre un temps chaque soir pour regarder comment j'ai vécu ma journée à la lumière de sa parole, pour sonder mes motivations, et peut-être même prendre un temps pour lui demander pardon, si besoin. Car on suit ce que l'on aime. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On suit ce que l'on aime. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je conclus. Face à la plus grande question de l'histoire, et peut-être même de nos propres vies, ici sur Terre, que répondons-nous dans l'intimité de nos cœurs ? Qui est Jésus pour moi ? Et si tu avais laissé cette question de côté depuis même longtemps, je nous invite à nous reposer la question et aussi nous rassurer sur le fait que Jésus, dans son immense douceur et humilité, ne se lassera jamais de nous accueillir. Alors on va tous repartir dans nos quotidiens, dans nos semaines, dans nos travails, dans nos vies de famille peut-être bien remplies, peut-être dans notre appartement ce soir. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qu'on a entendu par ce passage ? Est-ce qu'on va rester comme la foule, avec cette question en suspens, qui est celui-ci ? Ou est-ce qu'on va vraiment chercher à en savoir plus sur Christ, ce roi qui arrive, annoncé depuis longtemps, qui renverse nos codes et qui nous interroge ? Christ, avant Pâques, il va rassembler ses disciples pour leur annoncer sa mort. Et ce roi serviteur allait accomplir ce pourquoi il était venu. Non pour être servi, mais pour servir. Il va donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour nous, pour ce qu'il va faire à la croix. Et c'est notamment ce qu'on va voir dimanche prochain. Et je vous invite à venir célébrer ce moment avec nous en Église. Alors reconnaissons Christ qui se révèle rempli d'humilité et de douceur comme notre roi et sauveur. Un roi annoncé depuis longtemps, qui renverse nos codes et qui nous interroge aujourd'hui, qui est celui-ci? Je vous propose juste qu'on prenne un tout petit temps de silence de 1 minute et je vais conclure par la prière. Ouais, Seigneur, tu te lasseras jamais de nous accueillir. Tu auras toujours cette main tendue pour venir nous secourir de notre misère. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce roi serviteur que tu es et qui nous émerveille encore aujourd'hui. J'aimerais te remercier pour ce Dieu tellement bon, rempli de douceur et d'humilité, qui vient nous trouver aujourd'hui. Peut-être nous qui sommes assis aujourd'hui dans cette salle, il y a peut-être beaucoup de questions qui viennent à nous. Je te prie vraiment qu'on puisse avoir des cœurs qui se tournent vers toi et qui avons ce désir et cette soif de plus te connaître. Toi, notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, celui qui vient nous sauver de toutes nos craintes, peut-être de tout ce qu'on avait imaginé jusque-là. Et toi, tu te révèles à nous comme ce Roi-là. Et Seigneur, je te prie pour qu'on grandisse en amour pour toi, qu'on puisse vraiment te donner notre vie si ce n'est pas encore fait. Et qu'on ne reparte pas d'ici avec plein de questions, mais qu'on puisse peut-être avoir le courage d'en parler, ou peut-être de creuser ça ce soir, ou dans la semaine à venir. Et on te prie que ça ne reste pas insensible à nos cœurs. Vraiment, je te prie de te révéler à nous, et je veux juste te remercier, et te demander ton aide pour qu'on suive ton exemple, toi, ce roi serviteur qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie en rançon pour nous. Merci Seigneur. Amen.